Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le pape François est attendu en Calabre ce samedi, une visite pastorale brève mais intense à la rencontre de jeunes, de détenus et de malades dans l'une des régions les plus pauvres d'Italie. Nous y revenons en détail dans la première partie de ce magazine. Vous entendrez notamment l'évêque de Cassano Aglionio. Nous nous attarderons ensuite sur l'agenda chargé du Saint-Père ce vendredi. Il a rencontré les représentants de la conférence internationale sur la répression en matière de drogue, réunie à Rome pour leur 31e assemblée, mais aussi les participants un colloque sur la liberté religieuse. Nous reviendrons également sur la messe célébrée jeudi en la fête Dieu à Saint-Jean-de-Latran, puis sur le lynchage en France cette semaine d'un jeune Rome soupçonné de vol par des habitants d'une cité de banlieue parisienne. Bienvenue dans ce magazine. Dans quelques heures, le pape François s'envolera pour la Calabre, au sud de l'Italie. Le Saint-Père est en effet attendu ce samedi dans le diocèse de Cassano Aglionio. De nombreux rendez-vous sont au programme de ce bref déplacement. Le pape ira à la rencontre des différentes réalités de la région, l'une des plus pauvres d'Italie. Il visitera des prisonniers, des malades, des personnes âgées et déjeunera avec des pauvres et des jeunes d'une communauté thérapeutique avant de célébrer une messe à la Marina des Sibari. Bari, Manuela Figi.
C'est une visite pastorale, la quatrième en Italie, sur une terre meurtrie que le pape effectue ce samedi. Une terre gangrénée par la corruption, le manque de travail et le crime organisé. En Calabre, le chômage des jeunes de moins de 25 ans bat des records avec plus de 55%. Un terrain propice à la mafia locale. La 'Ndrangheta a tissé sa toile dans la région et s'est infiltrée dans le tissu social, économique et politique. C'est précisément dans la ville de Cassano Aglionio qu'un enfant de 3 ans, Coco Campolongo, avait été assassiné en janvier dernier, puis brûlé dans une voiture aux côtés de son grand-père, dans le cadre d'un règlement de compte mafieux. Un crime fermement condamné par le Saint-Père qui avait appelé les assassins à se convertir. La lutte contre le crime organisé est l'une des préoccupations majeures du pape. En mars dernier, le Saint-Père avait participé à une veillée de prière à Rome en mémoire des victimes italiennes de la mafia. Et c'est un évêque italien, Mgr Giancarlo Maria Bregantini, connu pour ses prises de position contre la mafia calabraise, qu'il avait confié les méditations du chemin de croix du Vendredi Saint au Colisée. Avec cette visite au cœur de la Calabre, le pape touchera donc de près cette dure réalité. Il viendra aussi encourager une population en quête de signes d'espérance.
Le pape François partira en hélicoptère du Vatican samedi à 7h30 pour atterrir à 9h sur la place qui jouxte la prison de Castrovillari, où à 9h30 il rencontrera les détenus et leurs familles et prononcera un premier discours. C'est à 18h qu'il quittera Marina de Sibari après avoir célébré la messe. Quelques 100 000 personnes sont attendues, c'est ce que nous a confié Mgr Nunzio Galantino, évêque du diocèse de Cassano Aglionio et secrétaire général de la conférence épiscopale italienne. En plein préparatif, juste avant l'arrivée du pape, il nous a confié ses attentes tout en s'attardant sur la réalité locale.
Ici, en Calabre, dans le sud de l'Italie, il y a la criminalité, le chômage, il y a les difficultés que vivent les familles qui les empêchent d'aller de l'avant. Mais regardez, il y a aussi tant de belles réalités. Et je pense que si elles n'existaient pas, ces belles réalités positives, nous ne pourrions nourrir aucune espérance, parce que, évidemment, le mal existe, un mal globalisé. Mais je vous assure, je suis ici depuis longtemps, il y a également beaucoup d'espérance et de belles énergies. Mais cela exige que ceux qui ont des responsabilités, donc l'Église aussi, et toutes les personnes au sein de l'administration, que ces personnes donc doivent pouvoir développer ces attentes, intégrer ces espérances. Le pape vient, certes, dans une situation difficile, mais dans laquelle il y a une réelle volonté chez les personnes de relever la tête.
Quelles sont les actions de l'Église pour lutter contre la pauvreté, le chômage et combattre la mafia? Comment l'Église agit-elle sur le terrain?
Vraiment, depuis de nombreuses années, l'Église est impliquée au premier plan. Elle est au front même, je dirais. Dans certaines situations, Je dois dire que l'Église est la seule, malheureusement, qui crée de nouvelles opportunités, des situations d'espérance, qui cherche des ouvertures. Aux côtés de l'Église, il y a bien sûr des volontaires, il y a la société civile, disponible pour travailler. Malheureusement, souvent, cette belle disponibilité, cette belle volonté de participer est comme frustrée par une bureaucratie excessive. Et l'on se rend compte que cette bureaucratie devient le terreau où prospère la criminalité. Et donc l'invitation doit être lancée avec plus de force aux politiques, à ceux qui ont des responsabilités administratives. Qu'ils soient des personnes qui aiment plus ce peuple, qui aiment plus ce territoire, des personnes qui contribuent à créer des situations adaptées pour que ces personnes qui ont le désir de relever la tête puissent le faire vraiment.
Quelles sont les paroles du pape François que vous attendez, que la population attend ?
Du pape François, nous attendons des paroles évangéliques, parce que nous sommes convaincus, comme croyants, que dans l'Évangile, il y a toutes les raisons justes pour ne pas être mafieux, toutes les raisons justes pour ne pas être violent. Dans l'Évangile, il y a toutes les raisons justes pour ouvrir son cœur au moins chanceux. Nous attendons avant tout des paroles qui nous invitent à oser plus, cela au nom de l'Évangile.
Monseigneur Nunzio Galantino, évêque du diocèse de Cassano a Lionio, un témoignage à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. À la veille de sa visite en Calabre, le pape François a rencontré ce vendredi matin au Vatican les représentants de la Conférence internationale sur la répression en matière de drogue, réunis à Rome pour leur 31e assemblée. Le Saint-Père s'est félicité du travail mené par l'organisation face à un problème aussi grave que complexe à notre époque, souhaitant que sa réunion dans la capitale italienne puisse amener des progrès dans la coordination des politiques anti-drogue, le partage des informations et le développement d'une stratégie opérationnelle efficace pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Antonino Gallofaro.
Lutter contre la drogue ne passe pas par la drogue. L'usage de psychotropes, de drogues de substitution, la légalisation des drogues douces, ce ne sont pas des solutions pour le pape. Pour lui, la drogue est un mal, et avec le mal, on ne peut pas se permettre de céder ou de se contenter de compromis. Il n'y a pour François qu'une manière de lutter, il l'avait déjà évoqué début mai. Pour dire non, il faut dire oui à la vie, à l'amour, aux autres, à l'éducation et au travail. Car ces deux derniers points, l'éducation et le travail, inquiètent particulièrement le souverain pontife. Il a en effet une pensée pour ces jeunes qu'il a baptisés ni, sans études ni travail. D'après ses mots, ces jeunes entrent dans un manque de perspective, d'espoir. Ils seraient donc plus facilement exposés à des addictions, dont la drogue. Au pape alors de marteler que c'est notamment le travail et l'éducation, mais aussi le sport, qui pavent la route de la prévention contre la drogue. Et de rappeler que l'Église doit aller partout où il y a un être qui souffre, ne pas abandonner, donc se tomber dans la spirale de la drogue. Au contraire, il faut aller à leur rencontre.
À l'agenda du pape également ce vendredi, une rencontre avec les quelques 200 participants, un colloque sur le thème « La liberté religieuse selon le droit international et le conflit global des valeurs » qui se tient actuellement à Rome. Dans son discours, le pape indique avec force qu'il est inacceptable que subsistent de véritables persécutions pour des motifs d'appartenance religieuse. Il qualifie d'incompréhensibles et de préoccupantes les discriminations envers ceux qui professent publiquement leur foi. Les chrétiens dans le monde subissent le plus grand nombre de discriminations, constate le pape avec douleur. Les persécutions contre les chrétiens, déplore-t-il, sont aujourd'hui encore plus fortes que durant les premiers siècles de l'Église et il y a plus de chrétiens martyrs que durant cette époque lointaine. Cela se déroule, rappelle-t-il, plus de 1700 ans après l'édit de Constantin qui octroyait la liberté aux chrétiens de professer publiquement leur foi. Pour plus de précisions, je vous invite à vous rendre sur notre site internet. Internet. le Saint-Père a célébré la messe sur le parvis de la basilique Saint-Jean de Latran jeudi en fin de journée à l'occasion de la fête Dieu devant des milliers de fidèles. Dans son homélie, le Saint-Père a mis en garde ceux qui se nourrissent de l'argent, du succès, de la vanité, du pouvoir et de l'orgueil, une nourriture synonyme d'esclavage. Olivier Bonnel.
François est revenu sur la figure de Moïse qui a guidé durant 40 ans le peuple d'Israël dans le désert, le faisant sortir d'Égypte et de sa condition d'esclave. Mais une fois installé, ce dernier encourait le risque d'oublier le passé. Les Écritures, a rappelé le pape, exhortent à se rappeler, à faire mémoire de tout le chemin dans le désert, un temps de famine et de découragement. Mais outre la faim physique, l'homme porte en lui une autre faim, a dit le pape, une faim qui ne peut être satisfaite par la nourriture ordinaire. C'est une faim de vie, une faim d'amour, une faim d'éternité qui ne peut être rassasiée que par la nourriture que donne le Seigneur. L'Eucharistie, a ainsi expliqué le pape, est cette nourriture véritable, celle qui apaise toutes les faims, en elle se communique l'amour du Seigneur, un amour si grand qu'il nous nourrit de lui-même, un amour gratuit, toujours à la disposition de toute personne affamée et qui a besoin de refaire ses forces. Le pape a ainsi mis en garde contre les autres nourritures qui ne proviennent pas du Seigneur et qui apparemment nous satisfont plus, l'argent, le succès, la vanité, le pouvoir et l'orgueil, et d'évoquer les Hébreux qui regrettaient la viande et les oignons qu'ils mangeaient en Égypte du temps de l'esclavage. À quelle table souhaitons-nous manger dans nos vies, a demandé le pape, celle du Seigneur ou de l'esclavage? François, qui a conclu en demandant à Jésus de nous défendre de la tentation de la nourriture mondaine, celle qui rend esclave.
Après la messe, le pape n'a pas participé à la traditionnelle procession du Saint-Sacrement vers la basilique de Sainte-Marie-Majeure tout au long de la Via Merulana. Il s'y est rendu directement en voiture. Le Saint-Père a attendu l'arrivée de la procession et donné à ce moment-là sa bénédiction. Une précision donnée par le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, qui a déclaré que le pape avait renoncé au long parcours à pied en vue de ses prochains engagements, notamment sa visite pastorale en Calabre. Avant de clore cette longue page consacrée à l'activité vaticane, sachez que l'Instrumentum Laboris de la 3e Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des Évêques sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation » sera présenté jeudi prochain en salle de presse du Saint-Siège. Parmi les intervenants, le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du Synode, mais aussi le cardinal André XXIII, archevêque de Paris. Le Synode, je vous le rappelle, se tiendra du 5 au 19 octobre prochain au Vatican. Répondant aux questions des journalistes dans l'avion qui le ramenait à Rome à l'issue de son voyage en Terre Sainte, le pape avait indiqué que le synode d'octobre serait avant tout consacré aux problèmes et aux richesses de la famille, regrettant que toute l'attention se porte sur la question de l'accès à la communion des personnes divorcées remariées, et il avait une nouvelle fois dénoncé la société qui rejette les enfants et les personnes âgées. En France, le rapporteur public du Conseil d'État s'est prononcé ce vendredi contre le maintien en vie de Vincent Lambert, un tétraplégique en état végétatif chronique depuis 6 ans. L'hôpital où il se trouve, à Reims, avait décidé d'arrêter de l'alimenter et de l'hydrater artificiellement. L'avis du rapporteur public est très généralement suivi par les sages du Conseil d'État qui rendront leur décision mardi prochain. Vincent Lambert, hospitalisé depuis un accident de la route en 2006, est au cœur d'un véritable drame familial. Ses parents souhaitent qu'il soit maintenu en vie. En revanche, son épouse, son neveu et le corps médical réclament eux l'arrêt des soins en raison du caractère irréversible des lésions et considérant que cela respecte sa volonté. La Fondation Jérôme Lejeune vient de publier un manuel euthanasie. Rédigé par un comité d'experts, il s'adresse aux jeunes, mais aussi aux éducateurs, formateurs, parents et professionnels de la santé. Dans un communiqué, la Fondation souligne l'opportunité de ce manuel pédagogique dans une actualité chargée de débats sur la fin de vie. Médiatisation de sortie de coma, annonce d'un projet de loi avant la fin de l'année, cas de Vincent Lambert, procès du docteur Bonne-Maison. Ce manuel gratuit, accessible sigle en ligne a pour but d'expliquer de façon claire les différentes questions posées par l'euthanasie. Il se compose de 5 parties qui posent notamment les définitions des formes d'euthanasie, approfondissent le rôle de la médecine et la responsabilité du médecin et proposent des solutions en développant la philosophie qui sous-tend les soins palliatifs. Retour à présent sur une affaire qui a suscité une vive émotion cette semaine en France, le lynchage d'un jeune Rom soupçonné de vol par des habitants d'une cité de banlieue parisienne. Darius, âgé de 16 ans, originaire de Roumanie, a été enlevé, lynché et laissé inconscient dans un caddie au bord d'une nationale près de Pierrefitte en Seine-Saint-Denis, à proximité de la Cité des Poètes, un quartier sensible. Le président François Hollande a fustigé un acte innommable et des associations ont dénoncé la stigmatisation subie par la minorité rom. Mais la justice a exclu tout antagonisme entre communautés. Pour le père Jacques Bram, le vicaire épiscopal pour la pastorale des cités du diocèse de Saint-Denis, cet acte barbare marque une nouvelle étape dans l'escalade de la violence. Dans le quartier, une équipe de la pastorale, composée de 8 personnes, rend visite aux Roms et aux jeunes. Le père Bram les côtoie régulièrement.
Les Roms, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui en veut. Donc, en tant que chrétien, nous, on essaye, au niveau de notre foi, justement, à changer notre regard. Mais même vis-à-vis des chrétiens, il y a des chrétiens qui ont beaucoup de mal à faire des démarches envers les Roms. Les personnes les moins aimées, ce sont les Roms, de très loin. Alors, chez nous, en Seine-Saint-Denis, enfin, particulièrement dans les quartiers pauvres qu'on a à Stein et Pierrefitte, ils sont numéro un dans l'exclusion, c'est clair et net.
Les Roms sont les cibles privilégiées des violences ?
Il faut savoir que dans les cités, les cibles privilégiées de la violence dans les cités, ce sont les jeunes entre eux. Les jeunes entre eux ne se font pas de cadeaux. Ils sont super violents, que ce soit à l'école, etc. Après, forcément, il peut y avoir des personnes qui sont faciles à agresser. Là, l'histoire des Roms, c'est ce qu'ils disent dans la cité par rapport à ça. Ils n'ont rien contre les Roms en tant que Roms vis-à-vis d'eux, du moment qu'ils ne viennent pas voler. Les pauvres, ils ont tellement peu de choses eux-mêmes, que si on vient leur prendre le peu dans les conditions de vie qui sont quand même très dures. Il faut savoir que la Cité des Poètes est quand même une des cités qui est en réhabilitation depuis 2009, où c'est en un chantier permanent. Il n'y a quasiment rien pour les jeunes. Au niveau associatif, il y a très très peu de choses. Il n'y a pas de centre commercial, il n'y a pas de piscine. Et donc les habitants, par eux-mêmes, il y a beaucoup de bruit, dû aux travaux, dû à différentes choses. Les conditions de vie, déjà dans une cité, ne sont pas faciles. La Cité des Poètes est encore plus compliquée.
Et comment l'Église répond à ce phénomène sur le terrain ? Quel est votre travail sur place ?
Ce qu'on essaie de faire, on a un prêtre qui habite dans la cité déjà. Et on a des locaux qui sont juste à côté de la cité, là, qui est sur la paroisse Notre-Dame de la Reconnaissance, des locaux qui servaient avant pour les scouts. Et donc, ils cherchaient un endroit avec la réhabilitation pour faire une régie de quartier. La régie de quartier permettra justement de créer des liens, d'avoir une formation aussi par la langue française, etc. Et puis de pouvoir faire des petits boulots suivant les demandes qu'il y a sur le lieu. Et donc après, il y a aussi tout ce qui est du domaine de l'éducation. Donc on a développé le scoutisme depuis 2 ans maintenant sur le lieu, en favorisant justement des possibilités de sortir aussi de la cité pour faire des camps. Et puis après, il y a ce qu'on essaie de faire, que les gens puissent... avoir des lieux de ressourcement spirituel en même temps. On travaille aussi par rapport au dialogue interreligieux. Et là, c'est plus sur Stein, qui est à côté avec une des mosquées où on a travaillé cette année un peu plus dans ce domaine-là. Donc, c'est toujours créer des liens, des ponts. Parce que ce qui fait la violence, c'est quand on n'a pas les moyens d'exprimer ce qu'on ressent, quoi. Si on n'a pas les mots, si on ne connaît pas les gens, ce qui fait aussi le côté un peu violent de la cité, enfin, plus qu'un peu. Les gens, ils n'appellent pas la police pour régler leurs problèmes. Après, les grandes difficultés, c'est toujours de pouvoir rassembler les personnes, de pouvoir dialoguer un petit peu avec eux. L'histoire du visite, par exemple, du camp de Rome, pour plusieurs chrétiens, ça a été la première fois qu'ils faisaient cette démarche d'aller vers eux. Et donc, au début, ils savent pas trop comment faire parce que c'est un peu compliqué. Moi, il y a des jeunes de la JOC qui m'ont dit « Vous pouvez me demander ce que vous voulez, mais pas d'aller voir les Roms. » Pourtant, ils sont chrétiens. Mais il y a un côté de résistance par rapport à ça, quand ils voient vis-à-vis des situations, la surenchère aussi par rapport à certaines personnes de ce qu'ils disent. Donc, on a tout un travail aussi éducatif. Le fait que, justement, le prêtre soit présent quand on visite les Roms, ça appuie justement la nécessité, au nom de notre foi chrétienne, d'être présent auprès des plus exclus.
Des propos recueillis par Antonino Gallofaro. la fin de ce magazine. Au nom de toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation, merci de votre fidélité.